おかしいおかしい、おかしい。
Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme chaque week-end, nous jetons un coup d'œil sur les principaux faits ayant dominé l'actualité de la semaine. Nous en avons sélectionné trois pour l'émission de ce soir. Remaniement ministériel du gouvernement Gizenga 2 intervenu cette semaine. Présentation du projet de budget 2008 à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Enfin, nous parlerons du plan élaboré par le gouvernement congolais pour résoudre la question des miliciens hutu-rwandais présents à l'est du pays. Donc, il devra présenter le gouvernement congolais le samedi 1er décembre 2008, notamment au gouvernement rwandais. Nous avons sollicité quatre confrères qui ont accepté de débattre de ces trois thèmes avec nous. Il s'agit de Victoire Eyobi, directeur de publication du magazine économique Entreprendre, publié ici à Kinshasa. Pascal Tankonde de radio-télévision Kasaï Horizon, KHRT de Kananga. Nous avons également Maurice Blondel Bokoko, directeur des informations au sein de Canal Congo Télévision, CCTV, chaîne de télévision de Kinshasa, appartenant à l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, et Francis Wabout, chef du service économie de Radio Liberté, une chaîne de radio émettant à Brazzaville, au Congo d'en face. Merci de vous avoir très nombreux pour suivre cette tribune de la presse. Commençons cette tribune de la presse donc par notre premier thème, que le remaniement ministériel qui a donné naissance au gouvernement Gizenga 2. Quels sont les changements intervenus et qui font leur entrée au sein du gouvernement? Réponse dans cette analyse de notre confrère Georges Kamoujova.
Conséquence du remaniement de ce gouvernement, certains ministères sont fusionnés, par exemple le ministère de l'Environnement et le ministère du Tourisme ne font plus qu'un. Le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Et il en est ainsi des 12 autres ministères qui sont aujourd'hui réduits à 6 seulement. Il est créé également 2 commissions ministérielles qui seront présidées chacune par un ministre d'État, une commission pour la politique, le social et le culturel, et l'autre pour l'économie et les infrastructures. Autre nouveauté, c'est la création d'un ministère chargé des relations avec le Parlement. Au plan politique, les grands partis contributeurs de la majorité au pouvoir comme le PALU, le PPRD, le MSR et la CODECO gardent la majorité de leurs postes. Certaines personnalités sont des élus qui viennent du Parlement. Parmi les nouvelles entrées à ce gouvernement, signalons celle du député national José Ndundu à l'environnement, ancien ministre des infrastructures. Il avait été révoqué du gouvernement des transitions en janvier 2005 après un rapport parlementaire sur la mégestion. L'entrée aussi du sénateur Philippe Fouta à l'économie nationale, ex-ministre des Finances, il a piloté la plateforme qui a amené Joseph Kabila au pouvoir. Sur le plan géopolitique, ce remaniement tient compte de l'équilibre entre les provinces, chacune avec 2 représentants au moins, a estimé la présidence de la République, citée par l'agence France Presse. Sachez enfin qu'en termes de genre, le gouvernement Gizenga 2 réduit le nombre des femmes de 9 à 5, 4 sont au ministère et 1 au vice-ministère.
Revenons dans ce studio, Maurice Blondel Bokoko, vous êtes le directeur des informations de Canal Congo Télévision CCTV, une chaîne de télévision de Kinshasa appartenant à l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Nous aurons l'occasion de parler justement aussi de votre chaîne qui n'émet plus depuis un certain nombre de jours. Ce remaniement était attendu au mois de septembre dernier, conformément aux déclarations du chef de l'État lui-même. Pourquoi d'après vous ce remaniement intervient 3 mois plus tard?
Merci, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi, bonsoir confrères. La question est bien posée, c'est une question assez pertinente, c'est qu'effectivement les Congolais attendaient ce remaniement au mois de septembre. On en a parlé, il y a des écrits dans les journaux, et malheureusement, à la date précise, c'est-à-dire au mois de septembre, le remaniement n'est pas venu. Il est venu, comme vous le dites, quelques mois plus tard, soit au mois de novembre. Eh bien, il est arrivé un peu plus tard, bien entendu, parce que justement, nous l'avons dit, du moins nous, au niveau des CCTV, nous disons que le gouvernement n'a jamais eu de programme précis, de programme de projet de société, et le gouvernement a toujours tâtonné. Donc c'est normal que quand au départ on n'a pas des idées fixes, que l'on puisse effectivement tâtonner. Parce que si nous croyons et que le gouvernement a été poussé a été remanié à la suite justement des critiques venues de tous les côtés, même au niveau de la majorité. On commençait à critiquer, à lancer des colibés au niveau de du gouvernement.
Et quelles étaient ces critiques ?
Eh bien, des promesses non tenues. Des promesses non tenues. On ne voyait pas clair comment on a repris les choses. Donc, il y avait du flou dans tout ce qu'on a pris.
Mais le gouvernement disait qu'on n'a même pas encore totalisé une année.
Eh bien, écoutez, ce n'est pas un problème d'une année. Il y a toujours un début. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et d'ailleurs, il ne s'agit même pas d'un remaniement. Il s'agit d'un réaménagement interne. Donc, tout ça, c'est parce que, justement, il n'y a pas de... Tout est flou. Rien n'est clair. Et donc, les gens ont commencé à crier parce que on a dit, mais nous avons un gouvernement qui ne fait rien, qui est dormant. Les gens, on les appelait d'ailleurs de dormants de val. Donc, il n'y avait rien de spécial. Et les gens étaient un peu mous. Les gens ne prenaient pas conscience qu'ils étaient dans un gouvernement, qu'il fallait effectivement tirer les Congolais du puits où ils étaient plongés.
Merci beaucoup. Nous avons également dans ce studio Victoire et Yogi. Vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre, publié ici à Kinshasa. Est-ce que vous partagez le même avis que Maurice Blondel-Bokoko?
Exactement. Vous savez... il y a eu autour de ce gouvernement beaucoup de critiques dès lors que les aspirations profondes de la population ne se sont pas retrouvées pratiquement dans la démarche du gouvernement. Mais plutôt, ce que je voudrais expliquer en rapport avec le retard dans l'intervention de ces remaniements, c'est dans ce sens qu'il fallait pour le chef de l'État d'abord réunir les éléments nécessaires avant de procéder au remaniement. Et pour cela, vous savez, les institutions de Bretton Woods ont un mot à dire dans tout ce qui s'est fait dans notre pays. Et en plus de cela, il fallait faire le point, parce que le chef de l'État, depuis septembre, avait promis, il avait dit qu'ils étaient en train de revoir un peu la marche du gouvernement, de faire le point. Et je me dis qu'au mois de novembre, finalement, il a eu tous les éléments entre les mains pour procéder à ces réaménagements. Donc, le plus important ici, c'est d'abord de voir en quoi ces réaménagements pourra apporter de l'efficacité dans l'action du gouvernement, d'autant plus que la population attend les résultats plutôt que les discours, plutôt que les grands gabarits comme on le voit actuellement dans cette équipe. Pratiquement, on se retrouve face à des bons joueurs en théorie, mais dans la pratique, dans notre pays, les bons joueurs ne ramènent pas toujours les trophées. Alors, je ne sais pas cette fois-ci si tous ces bons joueurs qu'on retrouve dans les différents départements pourront ramener des résultats concrets au niveau de la population. Donc, on se retrouve devant des besoins immenses et des moyens pratiquement limités et sous l'œil vigilant de la communauté internationale. Et on ne sait pas comment exactement ce gouvernement va procéder pour, d'un côté, protéger ses relations avec les institutions internationales et de l'autre côté, répondre aux aspirations de la population.
Merci beaucoup, Victoire. Et oubliez Pascal Tankonde, vous êtes journaliste de Radio-Télé Kasaï Horizon, KHRT, vous intervenez au téléphone depuis la ville de Kananga. Et comment, à Kananga, vous faites la lecture de ce réaménagement ministériel, comme l'a dit Maurice Blondel-Bokoko?
Oui, merci Claude, merci aussi à tous les intervenants dans cette émission tribune de la presse. Au sujet du remaniement de l'équipe gouvernementale, au niveau de la ville de Kananga, comme à travers un certain point, les points de cette province du Kasaï occidental, deux grands faits ont attiré l'attention. Personnellement, moi-même, j'ai été attiré par deux grands faits. Tout comme aussi dans le milieu des amis qui ont l'habitude de partager avec nous. Le premier constat qui m'a quelque peu réjoui, c'est d'abord la réduction de l'équipe gouvernementale. Vous le savez, comme moi, ils étaient 40 ministres et 20 vice-ministres sur la ligne du départ. Et aujourd'hui, la taille du gouvernement passe de 40 ministres à 33, de 20 vice-ministres à 12, ce qui veut dire en d'autres termes que le premier ministre, Antoine Gizenga, a tenu un peu compte de revendication de la population qui trouvait le premier gouvernement pléthorique.
Donc pour faire simple, donc on est passé d'une soixantaine de membres du gouvernement à une quarantaine aujourd'hui.
Oui, c'est ce que je disais, qu'avec cette réduction, ça nous fait quelque peu plaisir. Nous avons comme impression que le Premier ministre prête peut-être attention à ce que la population est en train de réclamer, parce que la population parlait au départ d'un gouvernement pléthorique. Aujourd'hui, avec cette réduction, nous pensons peut-être qu'ils sont en train de nous suivre. Et ça, c'était d'une part. D'autre part, moi, personnellement, je salue l'organisation de ce gouvernement qui comprend désormais deux commissions permanentes et qui seront coordonnées par deux ministres d'État titulaires, chacun d'un portefeuille ministériel. Cela, à mon sens, va permettre à cette équipe la réminimisation du travail, dans la mesure où ces deux grandes commissions vont regrouper maintenant l'ensemble des ministères et pourront peut-être permettre en même temps l'évaluation du cahier de charge de chaque ministère. Et puis le deuxième constat, c'est en quelque sorte une inquiétude. Mon inquiétude, c'est au niveau des individus. Moi, je me demande si la République démocratique du Congo, notre pays, n'a pas des ressources humaines de naissance. Car je me réalise que ce sont les mêmes personnes qui reviennent dans cette équipe gouvernementale. C'est quelque peu étonnant parce qu'on retrouve le même gens qui se sont déjà enrichis, qui occupent déjà de grands postes de travail, qui ont été ministres, qui sont jusqu'à ces jours parlementaires. Est-ce pour autant dire qu'il n'y a pas d'autres compétences dans ce pays, alors que chaque année ici, il y a de jeunes gens qui terminent leurs études et qui ont besoin du travail?
Merci beaucoup, Pascal Kankondé. Nous traversons le fleuve pour aller directement à Brazzaville, d'où intervient Francis Wabout. Vous êtes chef du service économie de Radio Liberté de Brazzaville. Et Francis, quelle lecture faites-vous à partir de quelle lecture on fait à partir de Brazzaville du réaménagement ministériel ou du remaniement ministériel, comme on dit ici, sachant qu'il y a quand même plusieurs Congolais de Kinshasa qui résident à Brazzaville?
Oui, merci beaucoup. Chers confrères, je salue tout le monde, tous les auditeurs de Capi et vous tous qui êtes de l'autre côté là-bas.
Merci.
Pour attaquer directement votre question, je dirais qu'en fait, nous ici, à Brazzaville, on est très attentifs à l'évolution de l'actualité au niveau de Kinshasa, au niveau de la RDC, de façon générale. Et la première observation, c'est que, et c'est ce que nous saluons d'ailleurs, c'est un peu cette diminution des effectifs, du gouvernement, qui était, même à notre niveau, considéré comme étant très pléthorique. Ça, vraiment, nous l'avons relevé. C'est vrai qu'il y avait quelques circonstances atténuantes, tenant compte de l'ampleur de la tâche qui attendait le gouvernement du Zenda 1, tenant compte également de l'étendue de la RDC, on se disait que oui, parce qu'un gouvernement, en fait, dans sa sociologie et dans ses missions, il doit répondre aux préoccupations des populations et en même temps, il doit correspondre un peu aux ambitions de celui-là qui est au trône, c'est-à-dire le président de la République. Bon, maintenant, il y a eu ce problème de pléthore, et parce que nous, on se disait également que pour un pays qui vient de traverser une longue période de fête de conflit, comme on le dit toujours, de crise, et pour un pays également qui aujourd'hui est en accord, en pourparler avec les institutions de Bretton Woods, est-ce que le nombre de ministres au sein de ce gouvernement ne constituerait pas un frein à sa mobilité, à son fonctionnement réel? Mais en dehors de ça, il y avait également un autre aspect, c'est-à-dire c'est un peu l'éclatement d'un certain nombre de ministères. Vous voyez par exemple le ministère des Finances, il était écartelé comme ça en ministère de portefeuille, en ministère de budget, en ministère d'économie. Et nous avons fait cette expérience à l'époque, on se disait que il risque d'y avoir un certain choc entre les différents ministres. Chacun, il y en avait qui risquaient de mettre les pieds dans les étriers de l'autre. Et ça, justement, ça peut créer des conflits au sein même du ministère.
Et chez vous, là-bas, il y a...
de cela, c'est vrai.
Et chez vous, là-bas, vous avez un gouvernement de combien de ministres?
Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de 37 ministres.
Non, merci beaucoup.
De 37 ministres, oui.
Merci beaucoup, Francis Waboot. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps pour le premier thème, Maurice Blondel-Bokoko, d'aucuns s'attendaient à ce que le Premier ministre Anton Vizenga puisse sauter, laissant sa place, son fauteuil, à un proche du chef de l'État. Mais il a été reconduit, il a succédé à lui-même. Comment vous interprétez cela rapidement?
Bien, je crois que le chef de l'État a tout simplement respecté les accords qu'il avait signés entre lui et Papa Vizenga. Vous savez, le gouvernement est sorti après beaucoup de consultations. Il n'y avait pas de parti majoritaire pour former le gouvernement. Il fallait avoir des partis alliés. Et effectivement, il y a Papa Vizenga avec Palou qui a accepté, et le ministre d'État Mobutu Sanga, qui ont accepté de travailler avec Kabila, et sûrement il y a eu des accords qui ont été signés, et aujourd'hui donc il n'y a pas eu de changement, parce que je crois que le chef de l'État voulait tenir compte de cet aspect de problème, respecter sa parole et laisser continuer et Vizenga ne fût que pour une année de mandat.
Victor Iliobi, est-ce que vous pensez que l'actuel Premier ministre a été maintenu à son poste suite à cette alliance dont parle Maurice Blondel-Bokoko, ou c'est peut-être pour c'est parce qu'il est efficace?
Il y a d'abord l'aspect de l'alliance qui est très important, d'autant plus que c'est en fonction de cette alliance qu'il s'est engagé à travailler aux côtés du chef de l'État. Et puis, vous savez, jusque-là, comme nous l'avions relevé au début de cette émission, le gouvernement n'a même pas encore réalisé une année. Donc, il est difficile de porter un jugement qui amène à une sanction sur la personne du Premier ministre, mais plutôt c'est comme une rallonge qu'on lui a accordée en réaménageant de l'intérieur, quitte à observer d'ici là s'il y aura des progrès. À défaut des progrès, je crois que le chef de l'État va devoir prendre ses responsabilités.
Merci beaucoup, Victoire. Excusez-moi, je vais passer aussi la parole bientôt à Pascal Tancondé, mais avant cela, comme je l'avais dit en tout début de cette émission, Maurice Blondel-Bokoko, vous êtes directeur des informations de Canal Congo Télévision, une chaîne de télé de Kinshasa appartenant à l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Je rappelle à nos auditeurs que depuis un certain temps, beaucoup des chaînes de télévision, dont la vôtre, ne fonctionnent plus, sont suspendues d'émettre suite à une décision du ministre sortant de la presse et communication. Il y a un nouveau ministre à la tête de ce bon ministère de la presse et information. Comment vous interprétez ce changement? Qu'est-ce qu'on peut attendre du nouveau ministre par rapport à l'ancien ministre qui n'a pas eu toujours des relations faciles avec la presse? On se souvient notamment des communiqués de l'ONG Journaliste en danger qui s'opposait à la politique du gouvernement Vizenga face à la fermeture ou à la suspension des émissions de plusieurs chaînes de radio et de télévision de Kinshasa.
Oui, je crois que tout le monde devrait comprendre que le départ du ministre Chilombo était attendu. Dès le départ, au mois de mars, lorsqu'il avait pris la tête du ministère de l'Information, Presse et Communication Nationale, en tout cas, il y a eu beaucoup trop de bévues. Tout ce qu'il disait était contredit, et tout ce qu'il disait était en dehors du domaine. Donc,
c'est-à-dire
qu'il ne disait pas la vérité, il ne maîtrisait pas le domaine.
Ça, ça m'engage sur vous-même.
Bien sûr, j'ai donné mon point de vue. Et chaque fois qu'il passait à la télé, il donnait aussi son point de vue. Donc, n'empêche que moi aussi, je puisse donner mon point de vue. Et donc, il ne pouvait que partir. Et dernièrement, ici, avec l'assainissement dont il a parlé, il a mal agi, justement. Il ne comprenait pas dans quel sens l'assainissement devait intervenir. Et là, il a fermé des chaînes. Il y a des chaînes qui étaient innocentes, qui étaient en règle, et qui sont restées fermées. Et tout comme également, il y a des chaînes qui ont été fermées, mais qui ont continué à travailler sous sa barbe. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pratiquement pas maîtrisé le domaine et qui avait des conflits avec tout le monde. Et son départ ne peut que être souhaité.
D'ailleurs, il y a certaines chaînes qui ont repris d'elles-mêmes sans que peut-être qu'il y ait peut-être une décision publique.
Oui, ça je regrette beaucoup parce que je pense que dans un état de droit, dans un état qui se respecte, les choses ne doivent pas se passer ainsi. Mais j'aimerais également vous dire que
CCTV iranique est une SRL, donc n'appartient pas à Bemba. C'est une entreprise commerciale privée. Il y a peut-être que Bemba détient la majorité de parts sociales, mais ça n'appartient pas vraiment à Bemba.
Et quand est-ce que vous allez reprendre vos émissions?
Eh bien, ça dépend. Nous avons déjà payé, nous sommes en règle. Nous regrettons que cette mesure ne continue à être observée. Et je pense qu'avec Bongeli qui vient d'arriver, bien Bongeli que je connais très bien,
il enseigne bien les mails du journalisme, hein, donc il connaît très bien le milieu de la presse.
Tout à fait. Que nous pensons que dans un temps relativement court, il va devoir voir comment lever la mesure pour permettre justement aux chaînes qui sont en règle de continuer le travail.
Merci beaucoup. Notre deuxième thème, c'est la présentation du projet du budget 2008 à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Antoine Gizenga. Ce budget de l'ordre de 3 milliards 300 millions de dollars américains contre 2 milliards 500 millions de dollars américains pour 2007. Comment se fait la répartition de ce budget 2008 pour en avoir le cœur net? Écoutons Antoine Gizenga lui-même au micro de notre conseiller Agathe Mpona.
En ce qui concerne ce budget 2008, on peut noter une stratégie d'investissement axée de manière plus résolue et plus précise sur les 5 chantiers du président de la République et du gouvernement. En effet, près de 70% de l'enveloppe globale vont au secteur prioritaire suivant: infrastructure 41%, énergie 14%, PSP 5%, santé 5%, agriculture et développement rural 3,5%.
Quant à l'opposition qui a appelé au rejet de ce projet de budget 2008, elle pense que ce budget ne répond pas aux attentes du peuple congolais. Écoutons à ce sujet François Mamba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo MLC, principal parti d'opposition à l'Assemblée nationale, une fois de plus au micro de notre conseiller Agathe Mpona.
Nous demandons le rejet, ce n'est pas un caprice. Un budget, c'est la traduction en chiffres de la politique d'un gouvernement. Avant de faire un budget, il faut avoir un programme. L'opinion sait, et nous avons dit que ce gouvernement n'avait pas de programme. Sans un programme, on ne peut même pas parler de budget, alors ça veut dire qu'on est en train de bricoler. On nous a promis que lorsqu'on présenterait le budget 2007, nous allions avoir ce programme à terme chiffres. Ça n'a pas été le cas, tout le monde le sait, puisque à l'occasion de la présentation du budget, on nous a dit qu'il y aura un collectif budgétaire qui va reprendre à son compte les préoccupations que nous avions exprimées au nom de la population. Il n'y a pas eu de collectif budgétaire 2007 et nous sommes au regret de constater que le budget 2008 ne vient même pas donner de réponse par rapport à cette préoccupation passée. On ne prend pas en compte la base à partir de laquelle un programme de ce gouvernement aurait pu être monté, c'est-à-dire les 5 chantiers, les préoccupations sociales. Nous demandons à ce qu'on rejette ce document, dont nous avons du mal d'ailleurs à qualifier de budget.
Les recettes attendues, recettes intérieures attendues dans le projet de budget 2008 est de l'ordre de 1 milliard 900 millions de dollars américains. Ces recettes attendues sont-elles réalistes dans la mesure où, selon M. Lem Tamoya, analyste économique, dans le budget, déjà dans le budget 2007, 700 millions de dollars américains attendus n'ont pas été réalisés. On l'écoute au micro de notre confrère Jean-Claude Toumba Kamanga lors de l'émission Dialogue entre Congolais du mercredi 28 novembre dernier.
Le bilan de 2007, c'est un bilan qui est vraiment lamentable parce que, vous savez, c'était un budget de 2 milliards et demi. Ce budget, il a été exécuté, je dirais, en matière de recettes à concurrence de 57,5% pour les 8 premiers mois. Et en matière de dépenses, je crois, ça a été 54,5% pour les 8 premiers mois. Et quand vous voyez au niveau des recettes, ce qui est inquiétant, c'est que sur les 2 milliards qu'on escomptait dépenser pour les 2 premiers quadrimestres, on a seulement exécuté 57. Donc, c'est pratiquement la moitié du budget qui a été exécuté. Il y a deux causes profondes. D'abord, c'est la Désirade qui a réalisé des contre-performances manifestes parce qu'elle n'a pu réaliser que 38% de ses assignations. Et il y a toutes les ressources extérieures attendues, notamment le CPTE, pour lesquelles aucun dollar n'a été encaissé jusqu'en 2008. Ce qui fait que les recettes extérieures sur lesquelles, qui représentaient plus de 47% du budget, n'ont été réalisées qu'à plus ou moins 10%. C'est sur les 2 milliards qu'on comptait percevoir, on a pu percevoir 1 milliard 300 millions. Donc, il y a une perte de 700 millions de dollars qu'on n'a pas su réaliser. Et tant qu'on n'a pas ces sommes-là, c'est difficile que l'État puisse exécuter les moyens de sa politique, entre autres, investir dans les secteurs prioritaires.
Pascal Cancondé, vous êtes de Radio-Télé Kassai Horizon Kacherté, vous intervenez au téléphone depuis Kananga. Lem Kamonia, un expert économique, vient de nous dire concrètement qu'on peut établir sur un budget de 3 300 millions de dollars américains sur papier, mais dans la réalisation, ça peut être simplement de l'ordre des 2 milliards de dollars. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à ce budget qui a quand même augmenté par rapport à 2007?
Oui, après, c'est comme nous venons de les suivre là, et vous-même, vous avez dit que le budget présenté à l'Assemblée nationale s'élève à 3,338,944,420 dollars. Et cela contre un budget de 2,5 milliards de dollars pour l'exercice 2007. Quand nous, personnellement, nous avons fait notre propre examen, ici, on constate que la part nationale se situe à plus de 2 milliards et la part extérieure à plus de 1 milliard. D'abord, je me réalise que l'activité qui s'est liée à travers ce texte, qui semble se raffermir un peu, redonne un peu de l'espoir au peuple congolais, plus particulièrement au peuple ici du Kasaï occidental, parce qu'on est passé d'un chiffre à un autre. Mais au fond, je trouve que ce budget ne prend pas en compte les questions sociales. C'est par exemple le quota, comme le premier ministre venait de le dire tout à l'heure, le quota alloué à l'éducation, le quota alloué à la santé, à l'agriculture, et même au développement rural, qui est très insuffisant. Ce qui démontre le manque de vision dans les domaines de l'éducation, alors que l'éducation, c'est un secteur qui ne peut pas être négligé, parce que c'est un secteur qui constitue un ensemble, à mon sens, un ensemble cohérent, c'est-à-dire que l'enfant va de l'école maternelle à l'université, et cet enfant passe par l'école secondaire et peut-être éventuellement par les instituts supérieurs et universitaires. Mais dans ce budget, le gouvernement n'a alloué que 5% à ce secteur. Aujourd'hui, par exemple, on parle des grèves dans presque tous les services de l'État, le secteur public de l'État. Le gouvernement, à notre niveau, doit moralement et politiquement revoir ce projet de budget pour doter notre pays, la République démocratique du Congo, d'un budget réaliste et conséquent.
Merci beaucoup, Pascal Cancondé. Francis Wabout, à Brazzaville, si mes informations sont vraies, vous avez un budget équivalent à peu près à celui de la RDC actuellement, 3 milliards de dollars. Alors que vous n'avez pas la même population.
3 millions d'habitants.
3 millions d'habitants.
3 millions d'habitants, en fait, pour... voilà, nous avons une population de 3 millions d'habitants.
Vous avez une population de 3 millions d'habitants, un budget à peu près le même que celui de la RDC, 3 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
Bon, en fait, en réalité, nous avons, je le disais tout à l'heure, une population de 3 millions d'habitants, avec un budget qui, depuis 2004-2005, équivaut un peu le vôtre à quelques différences près. Donc, en termes de francs CFA chez nous, ça se chiffre autour de 2 000 milliards. Bon, mais qu'est-ce que ça me dit? En fait, vous savez que le budget, c'est un peu la traduction, je l'ai entendu tout à l'heure, d'une politique d'un État. Et chez nous, aujourd'hui, nous sommes à une phase, dans une phase de reconstruction. Vous savez ce qu'il y a eu chez nous, donc il y a une bonne partie du budget qui va dans la construction de nouvelles infrastructures. Il y a des hôpitaux qui se construisent. Je ne vais pas citer en fait tous les grands travaux qui se mènent chez nous. Il y a d'abord ce côté-là, reconstruction et modernisation du pays. Mais en même temps, vous savez que nous avons une fonction publique. Je ne connais pas le nombre de fonctionnaires en RDC, mais nous avons quand même une fonction publique qui compte dans l'ordre autour de 60 000 individus. Et ça également, c'est à la charge de l'État. Donc, c'est il y a en dehors de cela le fonctionnement de l'État lui-même, avec le Parlement, l'Assemblée nationale qui a deux chambres, le Sénat. Et là également, il y a des fonctionnaires qu'il faut prendre en ligne de compte. Nous avons des collectivités locales, c'est-à-dire les différentes régions du pays. Et voilà un peu comment on peut lire le budget d'un pays.
Excusez-moi Francis, notre budget prévoit, d'après le Premier ministre, 5% pour l'éducation, 5% pour la santé et 3,5% pour l'agriculture. Chez vous, quelles sont les priorités dans votre budget? Rapidement, en 30 secondes, s'il vous plaît.
Oui, en 30 secondes, en fait, il y a cette volonté de beaucoup investir dans le secteur dit très pauvre, c'est ce que vous avez cité là, l'éducation, la santé. Mais quand on regarde un peu la part réelle qui est réservée à ces différents secteurs, juste là, elle ne correspond pas vraiment aux attentes telles que les gens les expriment ici.
Merci beaucoup, Francis Ouabout. Je reviens à vous, Maurice Blondel-Bococo. Vous êtes directeur des informations de Canal Congo Télévision, CCTV, une chaîne de télé émettant à partir de Kinshasa. J'ai fait, avant de présenter cette émission, j'ai fait mon petit calcul. Si l'on prenait 3 milliards 300 millions de dollars et qu'on divisait par le nombre de Congolais qui sont évalués à peu près à 60 millions, ça fait 55 dollars pour chaque Congolais par année. Et si on devait diviser le 55 dollars par 12 mois, ce qui fait qu'un Congolais n'a droit qu'à peu près 5 dollars américains par mois, prévus par, par l'État congolais pour chaque Congolais.
Dollars.
Oui, c'est 4,58 dollars, donc presque 5 dollars. Quelle est l'analyse que vous faites, Céleste? Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins de...
Justement, je crois que... Je crois que le secrétaire général du MLC, Mwamba, avait raison, justement, de dire que c'est un budget qui n'a pas tenu compte des aspirations du peuple, qui n'exprime pas le besoin réel du peuple. Et là, à partir du calcul que vous venez de faire, pensez-vous que quelqu'un peut vivre avec 4 dollars? Pensez-vous vraiment? Donc, c'est un budget irréaliste, irréel, irréfléchi. D'ailleurs, il faudra partir du discours même du Premier ministre qui parle de EPSP, École
Enseignement
Primaire Professionnel. Où est-ce qu'il a laissé l'université, l'enseignement supérieur? Il aurait dû parler de l'éducation nationale. Et là encore, justement, dans des pays civilisés, là où nous devons mettre beaucoup d'accent, il y a effectivement le problème des santé, le problème de l'enseignement de l'éducation nationale.
Ça également, le président de l'Assemblée nationale a dit,
voilà.
On ne peut pas inverser les choses, parce que depuis le temps, les temps anciens, on a toujours l'éducation et la santé sont considérés comme des parents pauvres ici.
Oui, mais justement, nous devons évoluer, on ne peut pas. Est-ce que les années passées, les gens vivaient mieux? Mais pourquoi n'est pas justement tenu compte de cette situation pour améliorer? Parce que, en fait, ce que l'on cherche, c'est aller de l'avant, présenter de bonnes conditions de vie à la population. Mais quand vous présentez un budget de ce genre-là, c'est impossible. Vous-même, vous avez fait des calculs, vous n'êtes pas mathématicien, hein, vous êtes journaliste, mais vous vous êtes amusé à faire ce petit calcul. 5 dollars pour un Congolais, c'est quoi un Congolais?
Par mois.
Par mois. Donc c'est illogique et irréalisable. Parce que c'est un budget qui n'a pas tenu compte des réalités du pays.
Qu'il faut rejeter, comme l'a dit François Mamba.
Oui, mais il faut le rejeter.
Merci beaucoup. Malheureusement, vous n'êtes pas parlementaire, vous n'êtes pas député national. Maurice Blondel-Bococo, c'est à eux de décider. Bon, je me tourne maintenant vers vous rapidement, Victor Ayobi. Vous êtes directeur de publication, justement, du magazine économique Entreprendre, publié ici à Kinshasa. Il y a un politique qui m'a dit que pour qu'on ressente vraiment, pour que les peuples congolais ressentent une certaine amélioration dans sa vie quotidienne, il faut pour la RDC un budget de 20 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez qu'on peut mobiliser ce budget de 20 milliards de dollars à l'heure actuelle au Congo? Parce que beaucoup de députés à l'Assemblée nationale disent que c'est un budget vraiment qui ne reflète pas l'économie de la RDC et ses potentialités.
Disons que cela est possible et tout dépend de ce côté-là de... des gouvernants congolais. Qu'est-ce qu'on demande aux gouvernants? C'est d'avoir des ambitions et de montrer le chemin à la population. Nous réalisons là, quand nous voyons la situation du Congo-Brazza, que pratiquement, en principe, le Congo devrait avoir un budget d'environ 60 milliards. Quand nous comparons aux 3 millions de Congolais d'en face, et que nous sommes 60 millions, donc on devrait aller jusqu'à 60 milliards. Malheureusement, nous ne sommes pas encore là et nous ne pouvons pas nous limiter ici juste à donner des chiffres, mais il y a moyen de faire des progrès. Déjà, l'année passée, c'était 2 milliards et demi. Cette fois-ci, nous tendons vers 3 milliards et demi. C'est que quelque part, il y a un souci d'aller vers l'avant. Alors, de ce côté-là, il y a lieu d'abord que, d'un côté, le gouvernement voit comment il peut mobiliser les forces productrices du pays. Ces forces, pour la majorité, se retrouvent au niveau de l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans le Congo profond. Et ils constituent en réalité le 90% de la population congolaise. Et toutes ces populations sont pratiquement exclues de ces budgets. parce qu'avec 3,5 milliards, on ne voit pas comment on pourra répondre aux besoins de toutes ces populations. De l'autre côté, il y a lieu également de voir comment mener une lutte active contre la corruption. C'est-à-dire, nous avons la DGRAD, nous avons l'OFIDA, toutes ces régies qui peuvent permettre au Congo de réaliser des recettes sur fonds internes. Nous sommes heureux de voir que, depuis l'arrivée du Premier ministre Gizenga, il y a de plus en plus une part importante qui est réservée au Congo dans le financement de son budget. C'est une prise de conscience, mais moi je crois qu'il faudrait que cela se fasse sur base de mécanismes pratiques qui vont aller dans le sens de réduire davantage la fraude, réduire davantage la corruption pour permettre au fonds d'être orienté vers les caisses de l'État.
Ouais, il faut dire quand même que beaucoup d'argent qui devrait rentrer dans les caisses de l'État passe par les poches des individus. Donc vous avez fait mention de la lutte contre la corruption qui devrait quand même être le choix de bataille de ce gouvernement, mais on n'a pas semblé beaucoup entendre cela dans le discours du Premier ministre, à moins que je ne me trompe. Oui.
Je voulais ajouter une chose. Oui, le troisième volet de ma réflexion, c'est vis-à-vis des partenaires extérieurs. Nous devons montrer à l'extérieur, aux Occidentaux, qu'est-ce que nous voulons exactement. Si nous voulons un budget conséquent, reconstruire les infrastructures, ce n'est pas dans les deux, dans les 3,5 milliards, mais c'est plutôt dans un financement beaucoup plus important, comme d'ailleurs les Chinois viennent de faire la preuve avec leurs 8 milliards. Les Congolais également doivent manifester leurs prétentions et comment ils entendent utiliser ces fonds dans le sens de reconstruire le pays, de financer l'investissement, et cela dépend en réalité du gouvernement congolais.
Mais certains députés ont également dit qu'on n'a pas retrouvé ce financement chinois de milliards de dollars et puis certaines autres ressources qui peuvent renflouer les caisses de l'État. Voilà, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons passer à notre troisième thème. Lors de la réunion du 9 novembre 2007 à Nairobi, au Kenya, le gouvernement congolais avait pris l'engagement de présenter un plan détaillé pour le désarmement des groupes armés étrangers qui pullulent à l'est de la RDC, notamment les ex-phares Interahamwe, etc. Ce plan devrait être présenté le 1er décembre 2008. Écoutons à ce sujet le ministre de la Défense, Chikes Diemo, qui répondait aux questions de notre conseiller Agathe Mpona.
Nous venons de terminer les travaux de ce plan, mais vous comprenez que la primeur doit être réservée à qui de droit, le président de la République, et pour cette raison, vous comprenez bien, autant bien que moi, que je ne peux pas m'hasarder à dire ce plan, c'est A, B, C, D, mais à tous les moyens, sachez que nous nous sommes retrouvés, la République du Congo, la communauté internationale, en ce qui concerne principalement les Nations Unies, à travers la MONUC, nous avons échangé tel que le communiqué le demande, nous sommes à la fin de ces travaux.
Je vous remercie. Sachant que c'est le 1er décembre, ce plan sera présenté cette année.
Pourquoi pas? Parce que je vous dis que nous avons terminé les travaux comme commission technique. Laissons à l'espace ceux-là qui devront représenter l'affaire.
J'ai sous mes yeux deux journaux d'aujourd'hui. Il y a la tempête des tropiques, il y a la une, on retrouve le titre souvent, neutralisation des FDLR, l'accord de Nairobi menacé. À la base, l'imminence de frapper d'abord Laurent Kunda et ses affiliés. Et puis l'avenir de ce jour, à la une, nous lisons, alors que la RDC est prête pour le 1er décembre, le Rwanda bloque la liste des génocidaires. Voilà, donc Pascal Kankonde, vous intervenez à partir de Kananga au Kasaï occidental. Votre réaction par rapport à ce plan, est-ce que finalement ce plan va amener la paix dans la région des Grands Lacs?
Bon, Claude, vous avez suivi, vous et moi, les communiqués de Nairobi signés par la République démocratique du Congo, notre pays, et le Rwanda. Et là, on reconnaît que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda et les troupes dissidentes de Laurent Kunda représentent une même menace pour leur sécurité. Alors que pour ce qui est de mesures pour aboutir à cette fin, en un sens, je trouve qu'il faudra qu'on parle d'abord d'une certaine contrainte. Il faut recourir à la force. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut recourir à la force? C'est parce que toutes les voies pacifiques sont presque épuisées. Le problème, c'est autour seulement de FDLR. Personnellement, j'étais en train de suivre une chaîne de radio. J'ai suivi le ministre rwandais des Affaires étrangères. Et il disait qu'il venait d'obtenir
ce qu'il avait toujours cherché, et que la République démocratique du Congo s'était finalement engagée devant les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, à combattre les FDLR et à le éradiquer sur le territoire congolais. Et là, il faut qu'on demande au Rwanda, ça c'est moi qui propose, il faudrait qu'on demande au Rwanda de prendre des mesures nécessaires pour sécuriser la frontière et empêcher, par exemple, l'entrée ou toute sortie, de membres de tout groupe armé, voire celui d'un Kunda, et d'empêcher que toute forme de soutien militaire, et quand je parle de soutien militaire, c'est-à-dire qu'il y a des soutiens matériels, il y a des soutiens humains, que cela ne soit plus fourni à aucun groupe. À ce moment-là, je pense que le plan perd aussi.
Merci beaucoup, Pascal Kankonde. Francis Ouabout, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps, en une minute. Est-ce que vous pensez, parce que ce n'est pas le premier plan qui est proposé par le gouvernement congolais au gouvernement rwandais, le premier plan avait été rejeté par le gouvernement rwandais parce que il était basé sur un rapatriement volontaire des miliciens hutu-rwandais qui sont à l'est de la RDC. Mais cette fois-ci, est-ce que vous pensez que comme c'est dans sur le plan régional que ce plan de désarmement de ces forces a été proposé, est-ce que ça peut amener une solution dans le cadre régional? Rapidement, s'il vous plaît.
Ouais, moi, je pense qu'il faut quand même saluer cette initiative. Moi, j'ai suivi le plan tel qu'il a été présenté. Au fond de moi, je me disais que cette fois-ci, quand même, le plan présente un certain nombre de d'assouplissements qui devraient interpeller positivement le Rwanda, afin qu'il essaie quand même de se dédouaner de cette crise qui continue à gagner la RDC, parce que jusque-là, le Rwanda est toujours indexé. Donc, si le premier, il avait rejeté ce plan, mais je pense que celui-ci, quand même, comme je l'ai dit, présente pas mal d'atouts. Et c'est un peu dans ce sens-là que je voulais dire que tous les efforts qui concourent quand même à la restauration de la paix, qui essaient de mettre en exergue les méthodes pacifiques, je pense qu'il faut les saluer, il faut les encourager. Donc faisons confiance en fait aux gens qui doivent examiner, mettre en pratique ce plan qui a été mis en place, afin que cette fois-ci quand même, on essaie d'observer le bout du tunnel.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Francis Ouabout. Maurice Blondel-Bokoko, ce plan sera présenté en principe demain. Il a été élaboré par le gouvernement congolais avec l'aide bien sûr de la communauté internationale. Quelle chance vous donnez à ce plan pour mettre fin à la présence de groupes d'armées aussi bien, surtout étrangers qui sont à l'Est et qui empoisonnent nos relations avec le Rwanda par exemple?
Je voudrais effectivement abonder dans le même sens que mon confrère Francis de Brazzaville, et nous devons beaucoup donner beaucoup de chance à ces plans pour qu'ils réussissent. Mais il y a un grand problème, Claude. N'oubliez pas que les Rwandais, le problème c'est au niveau des Rwandais. Ces gens, je pense qu'ils n'ont jamais été sincères. Il faudra, pour que ce plan réussisse, que les Rwandais, le gouvernement rwandais, accepte d'accueillir les Hutu-Rwandais. Parce que les Hutu-Rwandais ont toujours dit qu'ils ne se sentaient pas à l'aise lorsqu'ils rentrent. Ils ont peur de rentrer. Alors, cette fois-ci, est-ce que les Rwandais, le gouvernement rwandais, est prêt à les accepter?
Le gouvernement rwandais a toujours dit qu'il y a des programmes de réinsertion des Hutu-Rwandais qui étaient en RDC, et des programmes qui réussissent.
Oui, mais maintenant, le problème, c'est ça. Est-ce que cette fois-ci, le gouvernement rwandais est-il prêt à accepter, à accueillir ses frères?
Donc, vous voulez parler de négociations inter-rwandaises, en quelque sorte?
Non. Il ne peut y avoir de négociations. Maintenant, lorsqu'on met de ce plan-là, il faut que les gens rentrent chez eux et qu'ils soient acceptés par leur gouvernement. C'est ça le problème.
Merci beaucoup, Maurice Blondel-Bokoko. Victoire et Yobi, quelle lecture faites-vous de ce nouveau plan?
Disons que, comme Blondel tout à l'heure, je donne beaucoup de chance à la réussite de ce plan, sauf que il faudra rester sur les qui-vive, parce que par le passé, on l'a remarqué, c'est juste quand on veut aboutir qu'il y a des coups qui arrivent comme cela pour tout remettre en moule. Alors, pour cette fois-ci, j'insiste beaucoup plus sur la pression de la communauté internationale. Je me dis que si la communauté internationale n'accompagne pas le Congo comme le Rwanda, on risque d'aboutir à un échec, mais plutôt qu'il soit là, qu'il continue à faire pression, aller jusqu'au bout et nous aider à appliquer les différentes mesures qui ont été prises dans ce sens.
Merci, merci beaucoup. C'est ainsi que nous mettons fin à cette émission. Nous remercions nos quatre confrères pour leur contribution à cette analyse des bons faits d'actualité de la semaine. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour une autre tribune de la presse. Au revoir et bon week-end sur Radio Capi.
Oh, Kathy, oh, Kathy.